depuis ces jardins suspendus, bien c'est la marque de fabrique.
Plus on se rapproche des plantes, plus on a encore envie de s'approcher, et quand on rentre dans la nature, c'est tellement immense.
Et là, ça a été le départ d'une vraie aventure.
Les jardins suspendus, Olivier Horry.
Bonjour et bienvenue dans cette énième édition des jardins suspendus. Montez, je vous en prie. Cet après-midi, je m'adresse à toutes mes plantes dans le silence. Cet après-midi, je m'adresse à toutes mes plantes dans le silence. Qu'il y ait de la pensée, nul ne saurait en douter. Qui sait qu'il existe justement parce qu'il pense. Je suis, j'existe, c'est certain. Et qui suis-je sinon une chose qui pense ? Je ne suis même pour moi-même d'abord qu'une chose pensée, une res cogitans, pour le dire en latin, longtemps la langue de ceux qui en connaissaient un rayon avant de devenir celle de ceux qui ne savent que le latin. Mais qu'il y ait de la pensée et que je ne sois moi-même qu'une pensée n'implique pas que cette pensée soit toute consciente. À tel point que régulièrement, quand nous dormons par exemple, elle disparaît pour nous. Mais pas pour tout le monde qui peut nous regarder dormir et deviner je ne sais quoi de ce que je vis. Descartes est bien placé pour en parler, lui, dont ceux qui ne le lisent qu'à moitié font le champion de la conscience alors qu'il est au moins autant le maître du trouble et de l'infini qui nous dépasse tout à fait. Pour reculer de quelques années et passer de ses méditations métaphysiques à son discours de la méthode, où il avoue qu'il aurait aimé avoir la pensée plus prompte, l'imagination plus nette et distincte et la mémoire plus ample et plus présente. Qualité dont nous ne sommes ni les décideurs ni les ingénieurs puisqu'elles plongent leurs racines dans l'inconscient le plus insondable. J'aimerais, dans un blitz échiquéen, trouver plus rapidement que mon adversaire une bonne idée en lieu et place de cette pitoyable défense qui ne changera rien à mon sort de perdant. Mais cette idée viendra plus tard, du fond de moi, quand la partie aura cessé, faute surtout d'un combattant, moi, l'inconscient. Au petit matin, encore enveloppé d'un rêve un peu pénible et menaçant, j'adorerais faire la lumière sur ces images de dingue. Ce dingue, c'est moi. Mais celui qui concocta en moi ces scénarios un peu flippants tout de même, est-ce encore moi ? Où les cuisines inspirées sont-elles comme à New York de Hell's Kitchen défavorable ? Enfin, qui donnera la carte et les traits de ma mémoire ? A-t-elle même les rivages, une orée ou des gardes-frontières ? D'où viennent ce visage apparemment perdu ou ce nom oublié ? Et d'où refuse de revenir cette date bien connue de son anniversaire ou cette classe dans l'école de ma petite enfance ? L'inconscient est à la conscience ce que la mer est à sa surface. L'inconscient modèle la surface de nos représentations et même de nos réflexions. L'inconscient modèle même et nos membres et notre peau, nos viscères et nos cellules. Il se rit de nous si nous nous moquons de lui.
Thank you.
Carl Gustav Jung, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Voilà un livre autour duquel je tourne depuis bien plus de 40 ans sans le lire. Et c'est un paradoxe étant donné que j'ai été, paraît-il, une sorte de spécialiste de Gaston Bachelard, épistémologue et poéticien. Et puis, ne vous marrez pas, j'ai mes spécialités, enfin, tout de même. Et que Gaston Bachelard s'est beaucoup inspiré pour ses fondamentaux de Carl Gustav Jung.
6 mois après ma naissance, en 1875, mes parents quittèrent Caisseville, du canton de Turgovie, au bord du lac de Constance, pour aller s'installer au presbytère du château de Laufen, qui domine les chutes du Rhin. Mes souvenirs remontent à peu près à ma deuxième ou à ma troisième année. Je me rappelle le presbytère, le jardin, la buanderie, l'église, le château, les chutes du Rhin, le manoir de Wörth et la ferme du sacristain. Ce sont de simples îlots de souvenirs, en apparence sans aucun lien entre eux, qui flottent sur une mer indécise. Ici surgit un souvenir, peut-être le plus lointain de ma vie, et qui n'est pour cette raison qu'une assez vague impression. Je suis étendu dans une voiture d'enfant à l'ombre d'un arbre. C'est un beau jour d'été, chaud. Le ciel est bleu. La lumière dorée du soleil joue à travers les verts feuillages. La capote de la voiture est levée. Je viens de me réveiller dans cette superbe beauté et je ressens un bien-être indescriptible. Je vois le soleil scintiller à travers les feuilles et les fleurs des arbres. Tout est splendide, coloré, magnifique. Autre souvenir. Je suis assis dans notre salle à manger, du côté ouest de la maison, dans une haute chaise d'enfant. Je bois la cuillère du lait chaud où trempent des miettes de pain. Le lait a bon goût et son odeur est caractéristique. Pour la première fois, j'ai eu conscience de percevoir une odeur. À cet instant, je suis devenu, pour ainsi dire, conscient de sentir. Ce souvenir aussi remonte très loin dans le passé. Ou bien encore, c'est un beau soir d'été. Une tante dit « Maintenant, je vais te montrer quelque chose. » Elle se rendit avec moi devant la maison sur la route qui conduisit à Dachsen. Très loin, à l'horizon, s'étendait la chaîne des Alpes dans le rouge flamboyant du soir. On la voyait ce soir-là très clairement. « Maintenant, regarde là-bas. Les montagnes sont toutes rouges. » Je vis les Alpes pour la première fois. J'appris alors que le lendemain, les enfants de Dachsen allaient faire une excursion scolaire à Zurich sur l'Ultenberg. Je voulais absolument y aller aussi. À mon grand chagrin, on m'apprit que de 6 petits-enfants n'étaient pas autorisés à y participer, qu'il n'y avait rien à faire. À partir de ce moment, Zurich, l'Ultenberg, furent pour moi l'inaccessible terre promise auprès des étincelantes montagnes neigeuses. Un peu plus tard, ma mère partit avec moi en Turgovie rendre visite à des amis qui habitaient un château au bord du lac de Constance. On ne parvenait pas à m'éloigner de la rive. Le soleil scintillait sur l'eau. Les vagues des bateaux venaient jusqu'à nous. Ils avaient formé des petites rides sur le fond de sable. Le lac s'étendait dans un lointain infini, et cette immensité était un plaisir indescriptible, une merveille sans pareille. Alors, se fixa solidement en moi l'idée que je devais vivre au bord d'un lac. Je pensais qu'on ne pouvait exister qu'au voisinage de l'eau.
Oui, ce dernier souvenir de bord de l'eau hantera d'une certaine manière Carl Gustav Jung jusqu'à la fin de sa vie, dont il est question dans son autobiographie naturellement. Il me reste à remercier Landy Unger, l'ange musical des Jardins Suspendus, qui a choisi pour nous « Après un rêve » de Gabriel Fauré, piano, violoncelle, naturellement. Il me reste à remercier Sophie Lefebvre, qui a donné sa voix à Carl Gustav Jung. Il me reste à remercier Sylvain, qui réalise tout ça. Ciao, ciao.